BFM Business et La Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Alors, on est de retour sur le plateau. Il est 10h pile, nouvel horaire hein, des experts, 9h30, 10h30, tous les jours en direct sur BFM Business. On a encore une demi-heure de débat, de controverse à passer ensemble, toujours avec Clémentine Gallès, chef économiste et stratégiste chez Société Générale Private Banking, avec Patrick Bertrand, directeur général des opérations d'Allnest, et Erwan Tison, directeur des études de l'Institut de l'Entreprise et chargé d'enseignement à l'Université de Strasbourg. Je voulais qu'on parle évidemment de la grande d'actualité internationale. Aujourd'hui, c'est le président américain Donald Trump qui atterrit à Pékin pour une visite officielle avec Xi Jinping, les deux premières puissances mondiales au sommet qui se rencontrent. C'est toujours un événement et c'est la première fois d'ailleurs hein, que le président est reçu par son homologue chinois depuis sa réélection. On va simplement balayer un peu ensemble les enjeux de cette visite. Bon, c'est d'abord et avant tout géopolitique, Clémentine Gallès, non ?
Alors oui, il y a évidemment des sujets géopolitiques d'actualité chaude autour du conflit en Iran, de Taïwan, mais le nerf de la guerre, pour moi, dans les discussions, il va rester sur des sujets commerciaux.
Sur le business.
Donc, sur les enjeux d'échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis qui alimentent beaucoup la politique économique de Donald Trump depuis son second mandat, mais aussi depuis son premier mandat. On l'a vu par l'illustration des fameux tarifs douaniers avec à un moment une surenchère, une surescalade vis-à-vis de la Chine pour finalement redescendre assez.
Oui, alors on est un peu perdu parce que ça change en permanence avec Donald Trump. Pour mémoire, on est environ aujourd'hui, à date, hein, parce que ça peut changer évidemment, environ 30% de droits chinois sur les marchandises américaines. Et à l'inverse, les Américains ont mis 47% dans l'autre sens. Ça, ce sont les calculs du Peterson Institute.
Alors, c'est 47%, mais en fait, en effectif, on est plus près de 20% parce qu'il y a quand même pas mal d'exemptions sur pas mal de biens. Donc, au total, quand on regarde les rentrées fiscales liées à ce qui vient directement de la Chine, on est plutôt à 20%. Alors, ce qu'on peut constater sur les flux commerciaux entre la Chine et les États-Unis, c'est que quand on regarde les statistiques officielles, ils ont réduit et réduit assez nettement. Eh oui. Pour autant, ils ont réduit parce qu'une bonne partie des marchandises ont été déroutées par d'autres canaux et donc la Chine continue en fait d'alimenter beaucoup les États-Unis et le déficit commercial américain de l'autre côté en reflet, hein, et qui n'est pas seulement vis-à-vis de la Chine, hein, mais continue d'être nettement dégradé et donc pour l'instant peu d'impact de ces tarifs douaniers.
D'accord. Impact sur l'Europe quand même, parce qu'on a vu nous déferler beaucoup de produits chinois qui n'étaient plus vendus aux États-Unis quand même, non, Erwan Tison ?
Oui, c'est affiché par la Chine comme un objectif d'augmenter ses parts de marché au niveau mondial. Donc, c'est toute la question, ça recoupe un petit peu ce qu'on disait avant, c'est toute la question aussi de la réponse européenne, de la façon dont on doit ou pas s'organiser pour justement répondre. Et ça passe par plusieurs choses. Ça passe par une électricité pas chère et disponible et donc non taxée. Ça passe par des compétences qui soient abondantes et qui soient en tout cas formées, ce qu'on n'a plus forcément. Et ça passe aussi par une politique industrielle européenne qui soit organisée et surtout qui soit harmonisée.
Et des droits de douane ou pas ? Thomas Grébin, qu'on avait il y a quelques jours sur le plateau, avait commis ce rapport qui a fait beaucoup de bruit hein, en disant qu'il fallait absolument augmenter de 20-30% les droits de douane parce que plus de la moitié de l'industrie européenne était menacée par les Chinois.
Thomas est beaucoup plus expert que moi sur ces sujets-là, donc je ne prendrai pas le risque de le contredire, mais c'est un cas de conscience hein, pour ceux qui défendent une économie libérale et ouverte comme j'en fais partie. On voit économiquement qu'en fait, la construction de droits de douane et en tout cas, tous les mécanismes qui veulent justement réduire la surface du libre-échange sont néfastes pour la croissance mondiale et pour l'augmentation du bien-être des gens.
Mais font partie du jeu mondial.
Mais ça fait partie du nouveau jeu mondial et de ce nouvel équilibre, effectivement, des puissances. Et donc, le problème, c'est qu'on ne sera pas crédible aujourd'hui. Vu qu'on n'est pas crédible à la fois sur la puissance, on va dire, militaire, parce qu'il n'y a pas d'armée européenne, on n'est pas crédible sur la puissance technologique, parce qu'on ne pèse pas dedans, on n'est pas crédible sur la puissance énergétique, ni sur la puissance économique, parce que malheureusement, le PIB par habitant diminue. continue, ni sur la puissance, on va dire, financière et budgétaire. Il faut bien qu'on le soit sur autre chose. Donc, du coup, c'est vrai que ce levier, à défaut d'être puissant sur d'autres domaines, il faut effectivement peut-être que sur le volet commercial, on montre un peu plus les muscles, sachant qu'en plus, on a un vrai avantage comparatif par rapport aux deux autres blocs.
Bah, oui.
Donc, les convictions des libéraux, malheureusement, se trouvent un peu ébranlées par...
Un peu compliqué en ce moment, mais il faut s'adapter. Il faut être aussi pragmatique et s'adapter aux nouvelles règles du jeu et du commerce mondial, bien évidemment. Patrick, qu'est-ce que vous allez regarder dans cette rencontre au sommet ?
Avec un vrai changement, vous veniez de l'évoquer, on peut plus parler de mondialisation.
Je m'explique. Les échanges ont augmenté en 2025, y compris en volume.
Là, je parle plus globalement. On est plutôt dans une bipolarisation du monde avec deux blocs et certains blocs autres comme l'Europe qui essayent d'émerger. Donc, je pense que c'est ce que ça révèle. Et on ferait bien d'y prendre garde. Il y a eu plusieurs alertes sur l'évolution de ces deux blocs, tant sur le plan commercial que sur le plan technologique. Après, il y a un deuxième sujet qui est Taïwan. Mais pas Taïwan au sens géopolitique, ça fait partie de la Chine, etc., mais qui est représentative d'un sujet que tout le monde a bien en tête, c'est que les semi-conducteurs, c'est le pétrole du 21e siècle. Et quand on regarde Taïwan, Chine, États-Unis, on a cette problématique entre terres rares, raffinage des terres rares, qui sont absolument indispensables aux semi-conducteurs.
Absolument.
Et aux puces électroniques. On a une capacité, notamment avec TSMC à Taïwan, de création de semi-conducteurs, et la technologie qui convient aux États-Unis. Donc, on voit bien qu'il y a là une interdépendance qui n'est plus une interdépendance uniquement de marché, en disant vendre, j'ai besoin d'avoir accès à d'autres marchés. Là, il y a une problématique d'accès à une technologie qui, comme je le disais en préambule, est le pétrole du 21e siècle. Oui. Plus rien ne marche si on n'a pas accès aux semi-conducteurs. Donc, je pense que le principal sujet, le cœur du sujet, va être Taïwan, mais encore une fois, pas au sens je vais l'envahir, pas l'envahir, etc., au sens géopolitique ou historique, mais plus au sens de ce que ça représente en termes d'enjeux. Et je crois que le sujet majeur est là.
On est encore dans la course, nous, Européens, face à ces deux géants, effectivement, on le voit, chinois ou américains, en termes de...
Alors peut-être pour rebondir sur les histoires de tarifs douaniers. Donc c'est vrai que la Chine, elle est dans une posture pas du tout libérale. Hein. Elle fait face depuis le Covid à une conjoncture à deux vitesses, avec une demande des Chinois, des ménages qui est quasiment à tonne du fait de l'éclatement de la bulle du marché immobilier, et par contre un secteur productif très largement subventionné, donc très surcapacitaire.
Et surcapacitaire, et oui, c'est ça.
Que
il doit se déverser à l'international.
Cette dynamique commerciale de la Chine extrêmement importante, qui est un peu freinée vis-à-vis des États-Unis, même si, comme je disais tout à l'heure, ça passe par d'autres routes, et qui du coup se déverse sur l'Europe, et donc des vraies questions sur la capacité européenne à y répondre et à se protéger face à cet afflux.
Oui. On voit que ça va être compliqué quand même tout ça. Sur l'IA, un dernier mot.
L'IA, on revient à ce que j'évoquais tout à l'heure. Le moteur, on sait où il est. Et donc, il y a un enjeu finalement d'équilibre géopolitique dans le futur, si tant est qu'on considère que l'IA va être un point essentiel. Et les États-Unis ont intérêt à ce que ça se développe pas trop, d'où les restrictions de livraison de puces électroniques et de semi-conducteurs à la Chine. Donc on est là au cœur probablement du discussion, avec peut-être un point aussi qu'on peut rajouter d'une façon plus générale dans cette logique de bipolarisation, c'est que curieusement on est en face d'un pays, d'un bloc, la Chine, qui est plutôt calme, entre guillemets, dans sa démarche.
Mais ferme.
Calme, mais ferme. Et de l'autre côté, dans un environnement qui est totalement aléatoire.
Oui.
Et dans ce type de situation, on sait que le calme et le long terme payent toujours. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va ressortir de ces discussions, ce qui va être mis en avant.
Bon, et côté business, il y a une palanquée de tous les grands patrons, pas tous, mais beaucoup de grands patrons de la tech font partie du voyage. Hein, Yann Jensen de Nvidia, Tim Cook, Apple, Elon Musk, ils accompagnent tous le président américain. Erwan, vous souhaitiez réagir?
Oui, parce qu'il y a effectivement le côté, on dit, là on a l'impression un peu d'avoir les deux grandes puissances, notamment sur la tech, demain, qui sont en train de discuter, qui sont en train de prévoir justement un peu sans nous. Mais il y a un... Moi, je suis pas défaitiste contrairement à tout ce qu'on peut entendre. Je parle pas sur ce plateau, mais sur le fait que l'Europe sera vassalisée, parce que même si on maîtrise pas la hard tech qui est l'IA, je pense que il y a de plus en plus d'études qui sont faites dessus. La valeur, elle sera peut-être pas non plus que sur le support, elle sera surtout dans l'usage. Il y a cette phrase que j'ai entendue d'un marketeur il y a pas longtemps qui disait c'est celui qui a inventé, on a inventé le frigo, mais celui qui en a tiré la plus grande rente, c'est Coca. Et je pense qu'en fait l'Europe là-dessus a son rôle à jouer. Et c'est d'ailleurs la stratégie que fait de manière extrêmement intelligente Mistral. Mistral a arrêté d'investir sur son LLM. Pourquoi ? Parce que je parle sous le contrôle de Patrick, mais c'est un environnement qui est intense en capital, en capitaux, où vous pouvez avoir un acteur qui vient comme Anthropique balayer OpenAI en l'espace de 3 mois, alors que on imaginait qu'OpenAI allait être la plus puissante entreprise de toute l'histoire. Demain, on n'est pas à l'abri que un nouveau game changer Apple s'est décidé potentiellement avec son changement de direction à investir aussi dans l'IA. Il suffit qu'ils sortent un nouveau modèle qui soit un peu plus impressionnant. Donc cette course en avant par escalier, si on n'est pas sûr de la gagner, autant ne pas la faire. Par contre, autant anticiper celle d'après. Et là-dessus, l'Europe, je pense, a énormément de choses à inventer. Et là, ça tient plus au domaine peut-être de la diversité de son économie par rapport justement aux États-Unis et à la Chine, et à ses structures aussi, on va dire, à la fois culturelles et éducatives et surtout démocratiques, où on a la possibilité d'inventer justement des nouveaux usages pour utiliser cette hard tech-là. Et la vraie division qu'on pourrait avoir des équilibres des forces dans les prochaines années, c'est effectivement utiliser des technologies américaines ou chinoises, mais avec un degré de dépendance qui soit le plus faible possible. Et c'est là où justement on revient sur les racines. La souveraineté, c'est la réciprocité des dépendances.
Oui.
Et derrière, d'inventer des usages qui soient fortement...
Et tu vas dire, c'est dépendant. Après, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, plutôt que d'adopter ces technologies, on pense d'abord à les réguler, à les normer, et que souvent, on est en retard. Je pense notamment aux véhicules autonomes, par exemple, un rapport du Haut Commissariat au Plan qui est très intéressant. Est à lire en début de semaine. On a déjà 2 ans de retard sur les États-Unis ou la Chine dans l'application.
On
se dit bien que c'est les boîtes américaines ou chinoises qui vont venir faire circuler des véhicules autonomes.
On a plus que
Europe.
Ça. On a 6 ans de retard sur les véhicules autonomes, sachant que ce qui est dommage, c'est qu'en plus, on avait 3 ans d'avance en 2017, parce que les premiers brevets au niveau mondial ont été déposés par Navya, qui est une entreprise lyonnaise.
Lyonnaise.
Exactement. Absolument. Et qui, là-dessus, cette histoire, je l'avais racontée ici, mais je l'avais racontée dans un premier bouquin. Patrick en parlera mieux que moi, je pense, mais c'est une entreprise qui avait tout, qui avait, en plus, avec un consortium avec Valeo.
C'est dramatique.
Mais quand ils ont demandé à l'État en 2017 d'avoir, parce qu'un véhicule autonome, pour qu'il soit performant, il faut qu'il roule, il faut qu'il s'entraîne. Ils ont demandé justement d'avoir des ouvertures.
Donc
on leur a donné 10 km autour de Rouen en circuit fermé et ne pas circuler de nuit parce que problème de sécurité, etc., principe de précaution. Aux États-Unis, la Californie a ouvert toutes ses routes en disant vous avez le droit de faire 10 millions de kilomètres de circulation sur 5 constructeurs différents. Et en Chine, ils ont dit circuler, si jamais il y a des accidents, on s'arrangera après. Donc on est passé de leader potentiel mondial à...
Patrick. C'était pas le temps du label Notre-Dame.
Non, parce que
on faisait des lois d'exception.
Ce qu'a proposé Emmanuel Macron, mais ce qu'évoquait Erwan, c'est intéressant parce que dans le métier du logiciel, on a parlé du SaaS-pocalypse, c'est-à-dire de l'apocalypse de l'utilisation du logiciel en mode abonnement. Et en réalité, nous n'y croyons pas et on revient sur la logique des usages, c'est que évidemment l'IA permet de faire du code basique extrêmement rapidement, donc ça donne l'impression que on n'a plus besoin de logiciels, etc. Mais en réalité, on a besoin de compétences sur des usages spécifiques. Et c'est là que l'Europe, Erwan le soulignait, que l'Europe peut tirer sa chance dans le développement des usages à partir d'outils technologiques qui, certes, pour certains, on a quand même 2 ou 3 très belles entreprises en France et en Europe, sont développées ailleurs. Mais notre chance peut être là. Les applications et les usages.
Tout à fait.
Et on a démontré une vraie compétence depuis très très longtemps dans ces domaines-là.
Ça marche. Allez, dernier sujet, il est 10h passé de 14 minutes. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business. Je voulais qu'on parle un peu des défis du prochain président de la Fed. Avec vous, Clémentine Gallès. Les sénateurs américains, hier, ont confirmé l'arrivée de Kevin Warsh au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale des États-Unis. C'est la dernière étape avant qu'ils ne valident la nomination du futur président de l'institution. Jerome Powell, qui a été bien secoué par le président américain, la quittera ce vendredi, le 15 mai. Le futur président, il arrive dans un contexte particulier, hein, 3,8% d'inflation aux États-Unis, on est en plein pic. Quels sont, selon vous, les défis du prochain président de la Fed? Qu'est-ce qu'il va falloir surveiller?
Son défi principal, ça sera de mener son métier de banquier central, c'est-à-dire de faire face à un contexte d'inflation élevé. Alors l'inflation, elle a progressé en avril à 3,8, mais elle était déjà depuis quelques temps au-dessus de la cible. En fait, depuis le choc Covid, elle n'a pas retrouvé un niveau de normalisation proche de 2%, contrairement aux pays européens. Elle est restée un peu plus élevée et aujourd'hui, elle est proche de 4%. Donc, ce qui est bien éloigné de la cible de autour de 2% de la Banque centrale. Et pour ça, trois raisons. La première, c'est le choc énergie, comme on l'évoquait tout à l'heure, ce qui se passe en Iran, forcément a un impact aussi sur le prix du carburant, et c'est ce qui explique la progression, notamment en avril. Mais il n'y a pas que ça. La deuxième raison, c'est les tarifs douaniers qu'on a aussi évoqués tout à l'heure, qui impactent les prix des biens et qui donc se transmettent en termes d'inflation. Et puis la troisième raison, c'est plus en sous-jacent, c'est surtout les prix des services. Globalement, l'économie américaine se porte plutôt bien et donc génère aussi intrinsèquement un certain niveau d'inflation. Et tout
un
ça.
Triple moteur inflationniste.
Triple moteur inflationniste.
Dont Donald Trump est à l'origine des deux premiers, quand même, très directement.
Complètement. Et on n'a pas évoqué la politique migratoire aussi, qui a contribué à un certain déséquilibre sur le marché du travail et donc des tensions salariales, et qui a aussi contribué à ce niveau d'inflation que l'on observe aujourd'hui. Donc, Kevin Barch va devoir faire face à ce niveau d'inflation. Alors aujourd'hui, les taux d'intérêt de la Réserve fédérale sont déjà assez restrictifs.
Oui.
Mais il n'y a pas si longtemps que ça, les marchés...
On est à 4% aux États-Unis. Hein.
On est à un petit peu moins, 3,50, 3,75. Oui. Il n'y a pas si longtemps que ça, les marchés anticipaient, parce que c'était aussi la volonté de Trump, que les taux pourraient baisser d'ici la fin de l'année. Voilà, les récents chiffres d'inflation confirment plutôt que Kevin Barch va être plutôt de bon augure, qu'il patiente avant d'ajuster sa politique monétaire.
Bon, il avait plutôt rassuré les marchés, Kevin Barch, dans son profil, parce qu'on craignait un futur président complètement soumis au président américain. Kevin Barch était un profil plutôt solide. On voit que les tensions vont être quand même tout de suite assez fortes entre la Maison-Blanche et la Fed, Patrick.
Ouais, l'enjeu est là. Alors effectivement, il a été plutôt bien accueilli parce que il a la courbe d'expérience des crises financières, notamment de 2008. Mais l'histoire n'est pas forcément un éternel recommencement et une garantie de compétences dans le futur. Je pense que le principal sujet, vous l'avez soulevé, ça rejoint ce qui était évoqué sur une autorité indépendante de l'électricité. C'est est-ce que je suis indépendant? Parce qu'il y a la forme et le fond. L'indépendance, c'est pas de la forme. Formellement, c'est indépendant.
Oui.
Mais il y a le fond, c'est est-ce que je le serai? Il y a un point qui est intéressant aussi, c'est toujours cette différence entre les missions de la Banque fédérale et de la Banque centrale européenne. En fait, ce qu'on oublie très souvent, la Banque fédérale a une double mission. Elle a la mission de contenir l'inflation, enfin d'essayer de veiller à ce qu'il y ait une stabilité financière, mais aussi de veiller à ce qu'il n'y ait pas récession. C'est-à-dire qu'elle doit se préoccuper du plein emploi.
Oui, il a un double mandat à la Fed.
Qui est respecté pour l'instant.
Non, mais donc, c'est, j'allais dire que c'est plutôt rassurant sur le plan formel, sens que on est obligé de jouer les deux parce qu'on a un double mandat, de jouer les deux au sens de essayer de trouver le niveau d'inflation qui convient bien pour pas mettre en péril l'économie. Et donc on est dans un cadre et je suis toujours étonné que on n'ait pas réfléchi. On est étonné, il y a une raison qu'on n'ait pas réfléchi plus avant au niveau des missions de la Banque centrale européenne. La raison, c'est que la Banque centrale européenne, elle gère une monnaie sans État. alors que la Banque fédérale gère un État global et qui est cohérent. Donc il y a un point de réflexion, mais je vois que vous ne partagez pas totalement
que j'exprime. Disons que la BCE, elle a quand même comme objectif le plein emploi aussi. C'est juste un objectif de second rang par rapport à l'inflation qui reste son objectif premier. Mais bon, je pense que la Banque centrale européenne n'a pas intérêt non plus à mener la zone euro en récession.
Bien sûr.
Parce que le risque, ça serait que l'inflation soit trop basse à ce moment-là.
Ça peut, c'est vrai.
Mon point de réaction, désolé.
Erwan.
Oui, il y a un mandat qui commence effectivement avec, d'un point de vue observateur extérieur, ça va être très intéressant parce qu'il va commencer effectivement avec des tensions très importantes avec les Maisons-Blanches dans un contexte d'hyperinflation, mais d'inflation un peu importante, avec en plus une crise du crédit qui potentiellement peut se profiler, un shadow banking, comme on dit, qui est de plus en plus important avec des engagements hors bilan qui ne sont pas toujours respectés.
On ne parle plus de cette crise, hein, parce que c'est vrai que là, ce que vous évoquez, on l'a surveillé comme le lait sur le feu sur BFM Business il y a quelques semaines encore. Là, on n'en parle plus du tout de cette crise du crédit privé.
Elle continue de couver parce qu'elle ne s'est pas résorbée en l'espace de deux mois. Et vous ajoutez à ça en plus une volonté affichée de la part de Donald Trump d'affaiblir drastiquement le dollar, justement parce qu'il est conseillé par certains de ses plus proches qui lui disent que c'est la meilleure façon qui pourra justement de faire revenir des investissements qui permettront de construire des usines, qui permettront d'embaucher les ouvriers de la Rust Belt. C'est ça toute la politique économique de Trump, c'est ça, hein, c'est faire en sorte que son électorat, à la fin de son mandat, ait un boulot, ou en tout cas, et augmenter son salaire. Tous les autres fondements de la puissance américaine, que ça passe l'innovation dans les biotechnologies, l'innovation technologique, de l'apport aussi des travailleurs étrangers. Hein. Vous avez une personne sur deux dans la Silicon Valley qui est, qui n'est pas née sur le sol américain. Et on a décidé d'augmenter, Trump a décidé d'augmenter de 100 000 dollars par an la contribution des entreprises qui les embauchent.
Les frais de visa.
Exactement. Alors, la plupart des entreprises peuvent se les payer. Hein. Anthropic, Tesla peuvent payer, mais pour les stars, pas pour tout le monde. Et donc, c'est une opportunité. Moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis,
chaque crise est une opportunité.
Ben, pour l'Europe, c'est une opportunité extraordinaire parce que vous avez
les Chinois.
D'une possibilité d'attirer des profils étrangers parmi les meilleurs chercheurs du monde, par exemple.
Alors, on a essayé pour les universités, ça n'a quand même pas très bien marché. Je ne sais pas combien d'universitaires américains sont venus sur le sol français, mais ça se compte sur les doigts d'une main.
Mais pourquoi ça n'a pas marché? Alors, outre le côté universitaire, parce que vous avez qu'un autre problème. Mais par exemple, sur la recherche, quand vous écoutez ce que vous disent les principaux dirigeants des principaux instituts de recherche français, ils vous disent, moi je veux bien faire venir un vaccinologue des États-Unis, une star dans son domaine, mais ma grille de salaire, c'est 25 000 euros par an.
On paye déjà pas correctement nos chercheurs et on veut faire venir des chercheurs qui ont souvent quitté la France pour les États-Unis avec des salaires entre 4 et 6 fois supérieurs.
Il y a l'aspect salarial, mais il y a aussi l'aspect normatif, parce que vous avez même des chercheurs qui vous disent, moi je suis prêt, je m'en fous du salaire, parce que c'est ce qui compte, c'est quand on est face à des passionnés, ils vous disent, moi ce qui compte c'est ma matière, mais quand derrière ils se retrouvent à faire 2 heures de reporting par jour sur leur recherche, donc du coup casser un peu le mécanisme de sérendipité, et que de l'autre côté ils se retrouvent à chaque fois qu'ils ont envie de tester quelque chose, on leur dit, ah non ça t'as pas le droit, ah non ça il faut remplir le formulaire
B3, ah non, le principe de précaution,
ou Erwan, dans la constitution, en dehors de la paillasse, quand on est en biologie, pour aller chercher les subventions auprès des différentes agences concernées.
Oui.
Donc, c'est...
Bon. Ça tient un peu de choses. Il faut pas grand-chose. Il faut effectivement faire un vrai investissement dans la recherche pour casser certaines grilles, parce qu'aujourd'hui au CNRS, de ce que j'ai compris, toutes les grilles sont équivalentes. Donc c'est-à-dire qu'un chercheur en sociologie, j'ai rien contre la sociologie, un chercheur en économie, un chercheur en histoire, un chercheur en musicologie et un chercheur en intelligence artificielle sont payés la même chose. Et donc peut-être qu'il faudrait revoir ça. Et deuxièmement, avoir un vrai investissement, mais qui soit normatif, c'est-à-dire avec des allègements dans la recherche et financier pour leur permettre. Il y a des gens qui ne peuvent plus travailler aux États-Unis, qui sont parmi les meilleurs de leur domaine et qui ne demandent qu'une chose, c'est de venir en Europe, et particulièrement en France, vu l'histoire de la France, notamment sur la santé, et par le cadre de vie quand même. On n'a qu'à mettre un cluster le terme est choisi en ce moment, on n'a qu'à mettre un groupement d'intérêts autour de la Côte d'Azur et à Paris, et on fait deux groupements comme ça, on a fait venir...
Sophia Antipolis et Paris-Saclay.
Vous avez Lyon, vous pouvez...
Et Lyon, bien évidemment.
N'oublions pas, évidemment.
Pour revenir plus spécifiquement aux enjeux de nouveau gouverneur de la Réserve fédérale, il ne faut pas oublier non plus que le contexte est assez politique aux États-Unis avec les midterms qui arrivent en fin d'année.
Évidemment. évidemment.
Et je regardais, on a un indicateur de confiance des ménages américains qui a atteint hier ou avant-hier un plus bas historique. Et ce qui pèse, c'est vraiment les sujets qu'on vient d'évoquer. C'est à la fois ce niveau d'inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat, surtout d'une partie de la population.
Bah oui, c'est la courbe en K, comme on dit. Exactement, c'est-à-dire que la croissance américaine ne profite qu'à une petite minorité quand la majorité
Population qui est pénalisée aussi par des taux d'intérêt de crédit, notamment immobilier, qui restent élevés. Et donc cet arbitrage qui est compliqué, qui est la difficulté, et c'est la raison d'être de l'indépendance d'une banque centrale, et c'est ce que va devoir mener Kelvin March. Après, il ne faut pas oublier qu'il n'est pas seul décisionnaire. Il y a un comité de politique monétaire, un board, et qui n'est pas modifié de façon très significative et qui devrait mener sa mission avec beaucoup de questions, beaucoup d'enjeux sur le niveau des taux d'intérêt du marché. Les taux d'intérêt américains ont de nouveau touché les 4,5, les taux longs, cette fois les taux.
Les taux longs, on a même tutoyé les 5% la semaine dernière.
Exactement, et donc ça pose des problèmes aussi de financement de la dette américaine, parce qu'on parle beaucoup de la dette française, mais la dette américaine est à un niveau très élevé et un niveau des déficits qui est très élevé, et donc voilà, qui pose aussi des questions à la fois sur le financement de la dette et sur le niveau du dollar américain.
Avec un refinancement qui se fait de plus en plus à court terme, on fait des T-bills plutôt que des T-bonds. Ça a quelles conséquences, ça?
En tout cas, ça a eu comme conséquence la pression de Donald Trump sur la baisse des taux courts de la Réserve fédérale. Donc, c'est vrai que le Trésor a émis de plus en plus à court terme pour faire face à la hausse des taux sur la partie longue et maintenant souhaiterait que les taux courts baissent davantage. Et d'où l'enjeu de maintien de cette indépendance de la Banque centrale qui doit tenir bon pour faire face à un risque d'inflation de plus tard qui resterait plus durablement plus élevé.
C'est inquiétant pour vous qu'on refinance davantage à très court terme la dette des États-Unis plutôt qu'à long terme.
Ça génère un risque d'instabilité supplémentaire, oui, parce que du coup les chocs peuvent être beaucoup plus marqués, évidemment, si la maturité est plus longue. Mais c'est vrai que la charge de la dette aux États-Unis en point de PIB est aujourd'hui assez élevée, malgré le fait qu'ils aient déjà raccourci assez significativement leur maturité d'émission.
Bon, merci beaucoup tous les trois, Clémentine Gallès, chef économiste et stratégiste chez Société Générale Private Banking, Patrick Bertrand, directeur général des opérations d'Allnest, et Erwan Tison, directeur des études de l'Institut de l'entreprise et enseignant à Strasbourg. Merci pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business, sur le site, sur toutes les plateformes de diffusion, bien sûr. Tout de suite, c'est BFM Entreprise spéciale RH animée par Sandra Gandoin. Quant à nous, on se retrouve non pas demain, mais vendredi, même heure, même endroit, 9h30, 10h30, c'est le nouvel horaire. Notez bien, des experts sur l'antenne de BFM Business. Bien sûr, très bonne journée à toutes et à tous. À vendredi.